Il y a quelques jours, nous avons proposé une conférence de Mgr Pierre Moller, évêque émérite de notre diocèse, consacrée à l'aspect liturgique de la traduction controversée du Notre Père. Aujourd'hui, nous vous proposons une seconde conférence sur ce même thème, la traduction controversée du Notre Père, aspect biblique, par l'abbé Michel Garat, qui est exégète. Cette conférence a été organisée par le service de formation permanente du Béarn dans le cadre du cycle « Les plus de la formation permanente ». Voici donc cette conférence enregistrée le 26 janvier 2018 au centre diocésain du Béarn, la traduction controversée du Notre Père, aspect biblique, l'abbé Michel Garat.
À la lumière de la tradition de la Bible et de l'univers propre à chacun des évangélistes, c'est-à-dire Matthieu et Luc, qui nous ont rapporté la tradition du Notre Père. J'ai intitulé cette conférence « Notre Père, visage de Dieu, prière de l'homme ». Avec Matthieu, Matthieu 6, 9 à 13, nous verrons le visage de Dieu que Jésus nous révèle. Et avec Luc, au chapitre 11, nous nous pencherons plutôt sur la prière du disciple, puisque ceci demande à Jésus « Apprends-nous à prier ». Quelle est l'épaisseur de cette demande? Elle reste difficile à traduire de manière juste. Quel est le rôle de Dieu dans la tentation? S'agit-il d'ailleurs de tentation? C'est le mot qu'a choisi Jérôme au 4e, 5e siècle, quand il a traduit toute la Bible en latin. Donc s'agit-il de tentation ou et d'épreuve? Le mot employé par Matthieu et Luc désigne l'épreuve autant que la tentation, peirasmon. Si la tentation concerne surtout le domaine moral, l'épreuve est de l'ordre de la foi. S'agit-il du domaine moral ou du domaine de la foi? Enfin, il y a quand même une petite nuance. Alors voilà pour quelques questions, et puis on va essayer de cheminer. Dans un premier temps, du côté du Nouveau Testament, l'Évangile et la tradition rabbinique. Dans un deuxième temps, à partir de Matthieu, plutôt, un retour sur l'Ancien Testament pour essayer de voir quel est le visage de Dieu que nous transmet Jésus. Et la troisième partie sera plutôt à partir de l'Évangile de Luc sur la prière du chrétien, la prière chrétienne. Alors, pour aider ce soir, vous avez le plan en particulier, avec la bibliographie, surtout le cahier Évangile 68, mais les autres aussi sont importants, puisqu'ils parlent de la nouvelle traduction. Les deux formes du Notre Père, eh bien, on en parlera à un moment donné, vous verrez tout à l'heure. C'était il y a quand même quelques années, et la traduction est encore « Ne nous introduit pas en tentation », qui est une traduction exacte du latin. Alors, au temps du Nouveau Testament, la tradition nous a transmis deux Notre Père. Elle nous a légué, par Matthieu et Luc, deux Notre Père, qui ne sont pas en tout point semblables. Luc fait commencer la prière de Jésus par Père, la prière qu'il enseigne aux disciples par Père, et Matthieu, par une appellation collective, Notre Père, Notre Père. Luc est plus bref, et selon les spécialistes, il serait plus proche de la forme primitive du Notre Père. Matthieu transmet deux demandes supplémentaires qui lui sont propres. Si nous regardons la photocopie que je vous ai donné là à l'instant, on voit bien le Notre Père tel que nous le connaissons, tel que nous le disons avec toute l'Église, c'est la version de Matthieu qui commence par Notre Père, et la version beaucoup moins connue de Luc qui commence par Père. Alors, eh bien, il y manque par exemple le vœu que la volonté soit faite au ciel comme sur terre comme au ciel. Et puis, ensuite, donc, ça se rejoint. avec quelques différences dans la traduction. Mais donc la formulation est beaucoup plus brève en Luc qu'en Matthieu. Et les spécialistes disent que la version de Luc est plus proche de la forme primitive. Vous savez qu'il y a deux sources d'inspiration dans l'écriture des évangiles. Il y a un proto-évangile, un premier évangile, dont Marc est le meilleur témoin, un texte source, si vous voulez, qui a inspiré la tradition ultérieure, celle de Luc et de Matthieu. Mais Luc et Matthieu ont beaucoup de passages presque en commun, enfin, ceux qui disent à peu près la même chose, comme notre Père, voilà, et ignorés de Marc. C'est que Luc et Matthieu se sont inspirés d'une deuxième source. On l'appelle d'ailleurs le document, qui veut dire source en allemand, Quelle. Voilà, donc c'est un document qu'on n'a jamais trouvé. C'est une hypothèse. Et certains même se sont essayés à le reconstituer avec une certaine réussite, mais le document lui-même, on n'a jamais trouvé. Vous voyez, c'est une conjecture, mais en tout cas qui explique beaucoup de choses. Et d'autre part, Luc et Matthieu ont écrit séparément, sans se connaître. Alors, ils ont utilisé chacun deux sources, et ils les ont agencées tout à fait différemment. On en parlera tout à l'heure. Un peu plus tard peut-être, mais Matthieu est sûrement celui qui a le plus remanié les sources, car il a composé son évangile en cinq parties, faites à la fois de discours et d'actes, de paroles mises en acte par Jésus, qui rappelle fortement le Pentateuque, c'est-à-dire ce que Israël a recueilli comme étant la loi de Moïse en cinq livres. Jésus, le nouveau Moïse, celui qui donne la nouvelle loi, etc. Donc Matthieu est sûrement celui qui a le plus retravaillé ses sources pour les disposer différemment. Luc aussi, il a évidemment sa propre composition, hein. Et tout à l'heure on parlera de quelques épisodes qu'il est bien le seul à rapporter. Mais par rapport à cette source d'origine, il a sûrement beaucoup moins retravaillé le document. Donc, voilà pour Matthieu. La place de l'évangile, de la prière de Notre Père dans l'évangile de Matthieu, nous sommes dans le premier ensemble sur les cinq, dans le discours sur la montagne, qui commence, comme vous le savez, par les béatitudes. Et d'ailleurs, le dispositif nous rappelle Matthieu, comment il monte au sommet de la montagne, ses disciples formant un premier cercle, mais la foule n'étant jamais trop loin, au pied de la montagne au moins. Jésus s'adresse et donne donc son enseignement. Donc, c'est le visage de Moïse qui apparaît. Jésus est présenté comme le nouveau Moïse. Et donc, c'est dans cet immense enseignement qui commence par les béatitudes, qu'il y aura ensuite quelques images du sel de la terre, etc. Là, vous êtes la lumière du monde, la lumière. Mais il y a aussi ensuite les antithèses, on vous a dit, moi je vous dis, etc. Et ensuite les trois règles pour de la vie chrétienne, que sont la prière, l'aumône, le jeûne. Et c'est à propos de la prière que Jésus donne l'enseignement du Notre Père. Donc vous voyez, un grand ensemble d'enseignements. Luc, quant à lui, va insérer la prière du Seigneur dans un autre moment du récit. De façon plus proche, Jésus vient de répondre à la question du légiste. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? C'est au chapitre 11. Jésus répond en reprenant les commandements essentiels. Aimez Dieu, aimez le prochain. Fais cela et tu auras la vie. Et nous sommes déjà dans une présentation de la vie de Jésus, très importante du point de vue de Luc, c'est-à-dire Jésus a quitté la Galilée et il prend résolument la route de Jérusalem. Et au cours de cette route, il y aura beaucoup d'enseignements, beaucoup d'événements que Jésus va lire aux yeux des disciples, et la route devient pour les disciples comme une école d'évangile. Aujourd'hui, on parle beaucoup de devenir disciple missionnaire. Sans doute que Luc a beaucoup de choses à nous dire de ce point de vue. Nous sommes donc en route vers Jérusalem. Et Jérusalem représente l'aboutissement du mystère pascal. Jérusalem est très important dans l'évangile de Luc. Et les disciples vont faire route avec lui, comprendre un peu mieux qui il est, comment devenir son disciple, de telle sorte que, arrivant à la porte de Jérusalem, seuls les disciples qui l'ont suivi, qui ont fait la route avec eux, je ne dis pas les apôtres, les disciples, donc pour représenter une petite foule quand même, seuls les disciples seront en mesure de l'acclamer comme roi, différemment de Matthieu, où c'est toute la foule de Jérusalem. Là, l'acclamation se fait avant Jérusalem. Donc nous sommes dans cet ensemble, sur cette route qui conduit à Jérusalem, et l'un des enseignements concerne notamment le Notre Père, là où il parle de la prière. Alors, c'est donc à la fin, ou plutôt de cette partie-là, après avoir parlé de l'histoire du légiste, je reviendrai parce que c'est très important pour Luc, que les disciples demandent au Seigneur, et c'est en Luc que se trouve cette demande, « Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. » Nous y viendrons plus loin. Donc, du point de vue du Nouveau Testament, deux attestations de la prière du Seigneur, de la prière que le Seigneur confie à ses disciples, celle du Notre Père ou du Père. Est-ce que c'est une particularité chrétienne que de s'adresser à Dieu comme Père, Notre Père? De ce point de vue, nous avons beaucoup d'attestations de la prière rabbinique, et je vous ai mis au dos les points communs entre toutes les demandes du Notre Père, les vœux et les demandes, et puis de manière dispersée, parce qu'il y a beaucoup d'écrits rabbiniques qui sont cités, voilà, eh bien, il y a beaucoup de proximité. Par exemple, dans la formulation de Matthieu, Notre Père qui est dans les cieux, et la prière juive dans la Mishnah dit ceci, Notre Père qui est dans les cieux. Tout petit commentaire sur cette formule « dans les cieux ». C'est une formule très hébraïsante, enfin en tous les cas hébraïque. On parle des cieux, alors que Luc parlera du ciel au singulier. Et nous-mêmes qui sommes des disciples de Saint-Luc et de la Grèce, nous parlerons du ciel et non pas des cieux. Ou du moins si on parle des cieux, dans un sens très particulier, théologique et spirituel. Mais en hébreu ou en araméen, on parlait des cieux, c'est-à-dire la formulation est au pluriel, et c'est un point commun entre Matthieu et la prière juive. Sanctifié soit ton nom, la prière juive, dans le Kaddish, qui est une prière très importante et qui rappelle beaucoup de passages de nos prières, notamment le Sanctus, Saint, 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 qui se retrouve dans le Kaddish. Kaddish, ça veut dire d'ailleurs la sanctification, Saint. Alors, eh bien, que soit sanctifié ton nom très haut dans le monde que tu as créé selon ta volonté, pour sanctifier soit ton nom. Vienne ton règne, en Matthieu, de nouveau dans le Kaddish, que vienne bientôt et que soit reconnu le monde entier, dans le monde, que soit reconnu du monde entier ton règne et ta seigneurie, afin que soit loué ton nom pour l'éternité. Que soit faite ta volonté sur terre comme au ciel. Que soit faite ta volonté dans le ciel et sur la terre, donne la tranquillité de l'esprit à ceux qui te craignent, et pour le reste, agis selon ton bon plaisir, chose qui n'est pas dans Notre Père, donc d'un écrit plus tardif. Notre pain quotidien donne-le-nous aujourd'hui. Fais-nous jouir du pain que tu nous accordes chaque jour. Remets-nous nos dettes comme nous avons remis à nos débiteurs. Remets-nous, notre Père, nos péchés, comme nous les remettons à ceux qui nous ont fait souffrir. Ne nous fais pas entrer en tentation, ne nous induis pas en tentation. Voilà. Et donc, ne nous fais pas entrer en tentation, on a presque la formulation qu'on a retenue aujourd'hui, ne nous laisse pas. Sauf que, quand on a « ne nous fais pas entrer en tentation », on imagine facilement Dieu comme étant la cause première. Tandis que « ne nous laisse pas entrer en tentation », si Dieu n'est pas absent, il n'est pas celui qui pousse à la tentation. Par contre, la formulation de la prière juive est davantage proche de ce que nous connaissions en latin, ne nous induit pas en tentation, ne nous introduit pas en tentation. Mais délivre-nous du mauvais, qui à nous éloigné de tout mal. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un puzzle, hein, c'est-à-dire c'est à côté du Notre Père qui est d'un bloc qu'il y a de façon éparse des points de contact avec l'ensemble de la tradition rabbinique. Hein. Voilà. Donc, le petit commentaire qu'il y a tout dessus, c'est « Le Notre Père est en même temps la prière la plus juive et la plus chrétienne, car Dieu est Père, il est roi dans la tradition juive, mais nous verrons que, de façon très personnelle, Jésus a appelé Dieu « mon Père » et il nous introduit dans la prière où nous l'appelons « notre Père ». Voilà, donc c'est pour donner l'aperçu de ce milieu du Nouveau Testament. Donc Jésus, quand il enseigne la prière, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une seule dans le Nouveau Testament de cette importance-là. Eh bien, c'est à la fois la nouveauté, parce qu'il va réunir tout ce qu'il y a de meilleur, hein, dans la relation de l'homme avec Dieu, enfin la relation que lui-même entretient avec Dieu, son Père. Donc il réunit tout ce qu'il y a de meilleur, mais en même temps, il nous introduit dans la relation particulière et unique qu'il y a entre lui-même et son Père, ce que ne fait pas la prière juive, même si Jésus n'innove pas. Même dans la Bible, Dieu est Père de David, par exemple, du roi David, mais pas de la même manière. Alors voilà pour ce premier point, hein, donc, de notre Père, dans Matthieu, dans Luc, et beaucoup de points communs dans la tradition rabbinique, celle qui c'est le terreau, on pourrait dire que c'est le même terreau qui a baigné le début du christianisme et le début du judaïsme, si on accepte que le judaïsme n'est pas né avec Moïse, mais que le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh bien, est né à la fin du 1er siècle, en particulier avec ce qu'on a appelé le concile de Yavne, où les rabbis se sont réunis pour recueillir le meilleur de la tradition pharisienne. Et à partir de ce moment-là, il y a un développement plus ou moins séparé entre les chrétiens et les juifs. La tradition, surtout de Matthieu et du Nouveau Testament, fait état de relations conflictuelles et difficiles entre les juifs et les chrétiens. Mais du point de vue au départ, il n'y avait pas de différence. Il y avait un judaïsme éclaté avant la chute de Jérusalem. Il y avait non seulement des pharisiens, mais il y avait des Esséniens, comme vous le savez, par Qumran qu'on a retrouvé, mais également les Sadducéens et d'autres branches. Enfin, il y avait un judaïsme éclaté. Et Paul et Luc, l'évangéliste, sont sans doute de brillants représentants du judaïsme hellénistique. Donc, un judaïsme très très éclaté. Mais ce n'est qu'à la fin du siècle que les traditions vont se resserrer en recueillant le meilleur de la tradition d'interprétation, hein, de la Torah, etc., et pour avoir donc ce que nous connaissons du judaïsme, c'est-à-dire une relecture incessante des sources, avec les récits qui vont avec, et une loi accordée aux nouveaux problèmes qui se posent dans la vie juive, etc. Tandis que le Nouveau Testament, lui, va se développer à partir, non pas des Écritures sans cesse réinterprétées, mais à partir de Jésus-Christ ressuscité, qui devient le point par lequel tout est re-examiné, y compris l'Ancien Testament, re-traduit, resserré, reconcentré vers un aboutissement qui sera le dévoilement total quand le Christ reviendra. C'est-à-dire, si le principe du judaïsme, c'est la lecture infinie des Écritures, le principe du Nouveau Testament est davantage de nature apocalyptique, c'est-à-dire Jésus venant du Père, retournant au Père. C'est ce qui nous fait comprendre et les Écritures et la religion de nouvelles manières. Voilà. Mais ceci dit, il y a beaucoup de points communs, évidemment, entre les deux traditions. Alors voilà pour le premier point. Le deuxième point, le visage de Dieu dans la prière du Notre Père. On vient de le voir, le socle de la prière juive donnait déjà à Dieu le visage d'un père. Et Luc commence exactement de cette manière la prière de Jésus. « Père, que ton nom soit sanctifié. » Mais comme nous venons de le voir, le Père commun, ce Père commun est d'abord et de manière unique le Père de Jésus. Alors je ne donne que deux citations, mais il y en a beaucoup. En Matthieu 7, 21 par exemple, « Il me faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Il me faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ou bien à la fin de l'Évangile, en Matthieu 26, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Donc un lien très étroit et unique entre Jésus et Dieu qu'il appelle « mon Père ». Alors, si Luc préfère faire dire à Jésus « Père », il reconnaît tout autant le lien filial entre Jésus et Dieu. Par exemple, à la fin de l'évangile de Luc, en 24-49, quand Jésus promet la force de l'Esprit-Saint, il dit ceci « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. » Ce que mon Père a promis. Donc c'est vrai que Luc préférera faire dire à Jésus « Père » et non pas « mon Père ». Et dans la prière, il n'y a pas « notre Père ». Mais Luc nous introduit aussi dans cette relation et ce lien privilégié que Jésus entretient avec Dieu, son Père. Alors, donc, quel est le visage de Dieu qui apparaît ? Un aspect, c'est que Dieu est absolument hors du mal. La prière du Seigneur commence par « Notre Père ». C'est ainsi qu'il appelle Dieu. Et vous avez déjà remarqué comment se termine la prière du Notre Père. « Délivre-nous du mal ». Alors, dans la traduction comparée, et même celle de Matthieu, là, ici, ils ont mis le « mauvais » avec un « M » majuscule. Dans la traduction liturgique, on a gardé le « mal ». Mais je crois qu'il faudrait mettre aussi « M » majuscule. C'est-à-dire, le mal, c'est l'opposé absolu de Dieu. Alors, je trouve intéressant que le premier mot s'adresse à Dieu, et avec son visage particulier de Père, et que le dernier mot de notre Père soit le mot « mal », c'est-à-dire l'antinomie absolue, hein. L'exclusion qu'il y a entre les deux, le Père et le mal. Comment définir le mal ? Alors peut-être qu'on peut lui donner un nom propre, mais ce n'est même pas utile. Comment définir le mal ? Peut-être comme le lieu où Dieu paraît absent. Le lieu où Dieu paraît absent. Je ne dis pas qu'il est absent. Le lieu où Dieu paraît absent. Et où l'homme paraît livré à lui-même, livré à des forces qui lui sont parfois contraires. Ne nous laisse pas entrer en tentation, clairement ce n'est pas Dieu qui pousse ou qui soumet à la tentation. Je crois que la tradition biblique est constante de ce point de vue, et Mgr Moller a déjà cité Jacques 1,13, « Dieu ne tente personne, Dieu ne tente personne ». Mais pour éclairer ce point, il me paraît éclairant ou utile de remonter aux origines où déjà la question s'est posée. Et là aussi, je crois que Mgr Moller y a fait allusion, mais moi je vais y rester un peu, pas trop, mais un peu. C'est-à-dire en Genèse 3, lors du fameux épisode que tout le monde connaît comme étant l'épisode de la chute, l'épisode du serpent. D'abord, remarquons que cet épisode n'est qu'une étape du grand récit de la création, sans doute le plus ancien de la Bible, le plus ancien récit de la création, qui va du chapitre 2, verset 4, jusqu'au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, du livre de la Genèse. Alors tout le monde évidemment connaît l'épisode du serpent, qu'une lecture rapide appelle le récit de la chute. De quelle chute s'agit-il ? La femme se laisse tromper par le serpent et mange du fruit défendu, avec toutes les conséquences qu'on en a tirées. Heureuse théologiquement par le rôle de Marie, qui par son oui à l'ange permettra le rachat de l'humanité, mais en beaucoup moins heureux quand on en conclut par une certaine dévalorisation de la femme, alors qu'il s'agit bien de l'homme et de la femme, Ish et Isha. Tous deux ont mangé du fruit défendu. Mais je voudrais faire remarquer une chose, ce qui me paraît le point, qui, ça vous paraîtra peut-être une question de détail, mais pour moi ça me paraît important. C'est l'appellation de Dieu lui-même. De quel Dieu est-il question dans cet immense récit qui va de 2-4 jusqu'à la fin du chapitre 3. Dans cet immense récit, il y a 4 épisodes. Placé dans le jardin, Ish reçoit un interdit majeur qui produirait 2 effets. Manger de l'arbre qui donne de la connaissance, mais aussi qui donne la vie. La connaissance du bien et du mal et la vie. Le deuxième épisode, Ish sera partagé. Il va se réveiller Ish et Isha, homme et femme, à la fois semblables et différents. Et dans le premier épisode, il y a eu une première loi qui devient un interdit. De tout arbre, tu pourras manger. Mais... Et dans le deuxième épisode, une nouvelle loi, celle de la conjugalité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera et tous deux ne formeront qu'un. Donc deux lois, ça me semble intéressant parce qu'il ne faut pas attendre simplement le désert et puis les 10 commandements pour que Israël se reçoive d'une loi fondamentale. Dans ce cas-là, il y a deux aspects de la loi fondamentale puisqu'il s'agit à la fois de l'interdit et de la manière dont hommes et femmes peuvent s'unir et paraître ou former peuple face à Dieu. Le troisième épisode, c'est donc celui du serpent. Le quatrième et le dernier, c'est celui où le Seigneur Dieu dit ce que les uns et les autres deviendront hors du jardin, avec impossibilité de retour pour goûter aux fruits de la vie. Mais cet objet valeur qui est la vie sera à obtenir de nouvelles manières, mais hors du jardin. Alors de quel Dieu s'agit-il ? Dans les épisodes 1, 2 et 4, il s'agit du Seigneur Dieu, traduit mot à mot de l'hébreu, Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Yahvé, c'est-à-dire le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur de la révélation, le Dieu personnel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu personnel d'Israël. Tandis que Dieu, ou Elohim, c'est un pluriel. Elohim, c'est l'appellation habituelle de tous les royaumes alentour d'Israël, que ce soit Ougarit ou ailleurs. Donc c'est une divinité plurielle. On est dans le polythéisme. Et Israël a gardé les deux appellations, le Seigneur Dieu, mais si le Seigneur Dieu paraît dans le premier épisode, deuxième et quatrième, il disparaît lors du troisième épisode, pour ne laisser apparaître dans la réinterprétation des paroles du Seigneur Dieu que l'aspect Dieu, pluriel, Elohim. Autrement dit, le Seigneur Dieu est absent ou paraît absent dans ce troisième épisode, puisqu'on se trompe de référent. Il ne s'agit pas du Seigneur Dieu, il s'agit de Elohim. La supercherie est déjà là. Alors, quelle en est l'importance ? Ça dit quelque chose de l'être humain qui se rêve toujours, on lui a fait miroiter là, d'être ou de devenir Dieu. Par la connaissance, par la place, par le pouvoir, par le privilège acquis ou donné, être comme des dieux sera la tentation que le serpent laissera miroiter. Voilà, et précisément dans la bouche du serpent, dans le récit du serpent, n'apparaît que l'appellation Elohim, la femme se laisse tromper déjà par cela, et le Seigneur est oublié. Or, le Seigneur est unique. C'est le Dieu unique, avec des majuscules, celui de la révélation de Moïse, le Dieu de l'Alliance. On a vu comment c'est traduit la supercherie dans le référent, qui n'est plus que des dieux, Dieu, voilà, et non plus le Seigneur de l'Alliance personnelle. Et le fruit a laissé paraître toutes les qualités, qui est de donner la connaissance, de donner la vie, qui est le vieux rêve de l'humanité. Songeons simplement aujourd'hui, si je vais faire un pas trop rapide, songeons à tout ce qui se dit, s'écrit et se cherche autour du transhumanisme, par exemple. Voilà, je ne fais qu'ouvrir une parenthèse. Résultat de ce troisième épisode, c'est que l'homme, homme et femme, la dame qui est devenue Ish et Isha, se retrouvent nus, trompés. Ils ont bravé l'interdit. Ils n'ont pas reconnu la supercherie, celle du faux Dieu, qui transforme la parole du Seigneur. Le faux Dieu promet ce qui n'est pas en son pouvoir et que ne lui appartient pas. Le faux Dieu n'est pas maître de la vie avec un V majuscule. Cependant, même si le Seigneur Dieu est absent, l'humain ne perd pas tout. Il garde la capacité de reconnaître la voix du Seigneur qui se promènera au soir tombant et qu'il appelle juste après l'épisode. Il devra vivre désormais, cet homme, avec cette évidence. Il peut, et il sait, qu'il peut se laisser tromper. Il peut se séparer du Seigneur Dieu en se prenant pour Dieu. Mais la suite par la voix du Seigneur montre aussi que notre chemin est possible. Le Seigneur lui donnera un nouveau vêtement, une nouvelle dignité qui l'invite à chercher la vie et le Seigneur lui-même hors du jardin, mais dans une alliance sans cesse renouvelée et définitivement scellée en Jésus. Ainsi, dès ce premier récit de la création, paraît ce lieu où beaucoup de l'homme se joue. Lieu, pour reprendre un terme biblique, lieu de la convoitise. Lieu des faux dieux qui font dévier, embrouillant la voix du Seigneur, en l'interprétant de manière fallacieuse. Dans ce lieu, le Seigneur paraît absent. On croit entendre sa parole alors qu'elle n'est plus que le reflet, la déformation, ou le reflet de soi-même. Il y manque quoi ? Il y manque la distance. Yahvé n'est pas homme. La distance, que la philosophie appellera l'altérité, qui seule institue la liberté humaine. Au fond, la tentation, c'est de tout vouloir pour soi, tout phagocyter, tout dévorer. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Fait que nous n'entrions pas dans ce qui s'est passé lors de ce troisième épisode. Jésus au désert y est entré, mais pour confondre le tentateur, il a repoussé la prétention qu'il lui faisait miroiter de tout avoir, tout posséder, tout régenter, s'il changeait de Dieu, s'il prenait Satan pour le Seigneur Dieu, en l'adorant. Jésus seul peut repousser Satan. Jésus seul est vainqueur de l'épreuve. En Saint-Luc, à la fin des tentations, nous verrons que le diable s'est retiré, comme s'il avait perdu une manche, mais qu'il donnait rendez-vous pour un autre round, si on peut dire. Et de fait, le diable reparaîtra au moment de la passion, pour la deuxième et dernière manche, qu'il perdra définitivement. Et saint Paul dira de la manière suivante dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, 14, « Jésus a cloué le document accusateur sur la croix. » La croix est donc la victoire définitive de Jésus sur le mal. Jésus est vainqueur de l'épreuve suprême. Jésus, mais nous. Alors Jésus nous révèle que le Seigneur Dieu est aussi notre Père. La prière chrétienne, la prière du Notre Père, nous fait nous tenir à ses côtés et du côté de la victoire. Jésus vainc la tentation, car il est du côté de son Père, uni, étroitement lié à lui. Nous sommes invités par la prière à entrer dans ce lien Père-Fils. Cependant, nous ne sommes pas Jésus, le Fils unique. Nous appartenons à la famille humaine dans la situation du troisième épisode, celui du discernement de la connaissance du bien et du mal, faussé par la convoitise, attiré que nous sommes par ce qui brille. C'est cela la tentation, l'épreuve, lieu du tentateur, loin du Seigneur. Fait que nous n'entrions pas en tentation. On serait tenté de prolonger de cette manière. Fait que nous n'entrions pas en tentation, car sinon nous n'aurions pas le dernier mot. Nous ne pourrions pas nous en sortir seuls. Et la dernière demande viendra préciser, comme un appel au secours, si nous y sommes, si nous sommes dans ce lieu, cette épreuve, délivre-nous du mal, délivre-nous du tentateur, délivre-nous du diable, comme Jésus a pu le repousser lors de ses tentations. Ainsi, le visage de Dieu qui apparaît est celui d'un Père, que le Christ appelle son Père de manière unique, et la prière nous fait entrer dans cette relation unique, dans le lien, dans l'alliance entre Jésus et son Père. Entrer dans cette relation, la prière nous fait participer de manière spirituelle, nous fait participer de manière réelle, puisque nous disons que nous sommes sauvés déjà en Jésus-Christ. Donc la prière nous fait participer à la victoire du Christ sur le mal. La prière est affirmation que Dieu n'est pas absent de nos combats, même si le contraire paraît plus évident. De façon très populaire, on entend tout le temps dire « si Dieu avait été là dans tel accident, etc., lors des catastrophes, des guerres, ou alors des choses plus importantes encore, comme toutes les turpitudes humaines, ou bien encore au moment de la Shoah ». Autant de lieux où se pose la question de Dieu, autant d'échos du cri de Jésus sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais certitude aussi que Dieu entend le cri du pauvre, qu'il vient le sauver, le délivrer du mal. Voilà la raison d'être de la dernière demande, « délivre-nous du mal », M majuscule. Donc voilà pour ce visage de Dieu, de quel Dieu, à quel Dieu nous nous adressons, comment entrons-nous dans le lien unique entre Jésus et son Père, comment participons-nous ou demandons-nous de rester dans le lien qui nous unit à la victoire du Christ sur le mal. Troisième partie, la prière de l'homme. Beaucoup de choses viennent d'être dites déjà à partir du Notre Père, de Matthieu, sur ce qu'est la prière de l'homme, union à la prière de Jésus, qui s'adresse à son Père et qui nous fait connaître comme notre Père, à qui on demande de veiller sur nous en faisant que nous n'entrions pas dans la tentation, dans l'épreuve suprême, d'être sans lui, dans un lieu où il n'est pas. La prière de Jésus dans l'évangile de Luc nous permettra de voir sa place dans la vie humaine et dans la vie spirituelle. On a déjà noté que Jésus s'adresse en Luc à Dieu par une appellation moins personnelle, Père. Et surtout que la prière vient à la réponse, en réponse à la demande des disciples, apprends-nous à prier. Mais intéressons-nous maintenant au contexte de l'enseignement de cette prière ou de la demande des disciples que Jésus leur apprenne à prier. Quel est le contexte? Où se trouve cet épisode? La prière de Jésus en Saint-Luc nous est transmise au chapitre 11, comme vous l'avez lu dans la feuille là. Jésus a déjà pris la route vers Jérusalem avec ses disciples, la très longue route, long pèlerinage qui le conduit à Jérusalem, lieu de l'accomplissement du mystère de sa Pâque, et la route, comme on l'a dit, devient école pour les disciples. L'enchaînement des épisodes précédents est le suivant. Il y a eu la question du légiste, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» On connaît la réponse de Jésus par le commandement du double amour, aimer Dieu et aimer son prochain. L'amour de Dieu est juste après illustré, l'amour du prochain est juste après illustré par l'épisode du bon samaritain. Luc est le seul à nous rapporter l'épisode du bon samaritain, comme vous le savez. Et l'amour de Dieu, c'est l'épisode qui suit, le bon samaritain, l'amour de Dieu est représenté par la meilleure part que choisit Marie, la sœur de Marthe, elle qui écoute la parole. Donc, aimer Dieu, aimer son prochain. Comment ? Qui est mon prochain ? Et comment aimer son prochain ? L'exemple du bon samaritain. Mais en même temps, comment choisir la meilleure part ? Celle d'aimer Dieu. Eh bien, l'épisode de Marthe et de Marie. Et juste après va venir la prière du Notre Père, l'enseignement « Apprends-nous à prier ». Elle est l'aboutissement, mais elle est aussi la source, source et aboutissement, du double commandement « Aimer Dieu et son prochain », qui sont un seul et même commandement. Eh bien, ces deux aspects, aimer Dieu et aimer son prochain, sont réunis éminemment dans le Notre Père, où il y a trois vœux pour Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis aussi, dans la vie, en communauté ou en société, donne-nous aujourd'hui le pain de chaque jour, pardonne-nous, remets-nous nos dettes. Fait que nous n'entrions pas en tentation. Donc le Notre Père reprend le même enseignement, mais ce n'est plus du point de vue juridique quel est le grand commandement. Ce n'est plus par l'exemple du bon samaritain et de Marthe et de Marie, mais c'est par la prière. Autrement dit, cette prière devient source et prolongement, on pourrait dire, et aboutissement de toute la vie humaine, et on pourra dire chrétienne. Ce Dieu que l'on prie, c'est le Père dont on demande la venue du règne, etc. Et la demande de ne pas entrer en tentation reçoit maintenant un nouvel éclairage du contexte que nous venons de donner. Quelle serait la tentation, à mon avis ? La tentation serait de dissocier Dieu du prochain. Et Saint Jean, dans une lettre, dira que faire cela, c'est mentir. Celui qui dit « aimer Dieu et n'aime pas son prochain » est un menteur. Et en s'appuyant sur une citation de Saint Ignace de Loyola, on pourrait parodier ou dire ceci, on comprend qu'il nous faut agir comme si tout dépendait de nous et rien de Dieu. Le bon samaritain, mais qu'il faut aimer Dieu comme si tout dépendait de Dieu, comme le comprend Marie, et non pas comme le souhaiterait Marthe, elle qui s'active. On n'est plus dans l'action peut-être, mais dans l'activisme, ce qui est différent. Jésus ne dévalorise absolument pas la vie de tous les jours, hein, absolument pas, mais peut-être l'activisme, oui. Et donc, agir comme si tout dépendait de l'homme et rien de Dieu, mais compter sur Dieu comme si tout dépendait de Dieu, comme le fait Marie. L'excès de l'action, ça serait de se couper de la source de l'amour, sans se référer au Dieu amour. L'excès de l'action, c'est se perdre dans l'action, en oubliant la source. Et le renouveau qu'est la prière pour se ressourcer, y compris dans l'action. Sans se référer au Dieu amour, Dieu Père, et ainsi retomber dans la tentation décrite dans le troisième épisode selon le récit de la création. Donc la prière du Notre Père unit les deux faces de l'unique amour. Prier devient donc l'anti-mensonge. Prier devient donc l'anti-mensonge au sens joannique du terme. Hein. En tenant ensemble le double commandement de l'amour, ne pas entrer dans la tentation de séparer l'amour de Dieu de l'amour de l'homme ou inversement. C'est la deuxième réponse, pourrions-nous dire, c'est la deuxième réponse que Jésus fait indirectement au légiste. Il y a la mise en œuvre du double commandement, par l'exemple du bon samaritain, celui de Marie, mais la deuxième réponse est celle de la prière. Comment unir par la prière l'amour de Dieu et du prochain? La prière devient source et aboutissement. Et ainsi, la prière devient comme le moyen d'unifier notre vie, à l'imitation de Jésus, tout entier tourné vers le Père. Vous le savez, la prière de Jésus est souvent mentionnée dans l'évangile de Luc, peut-être plus encore que dans l'évangile de Matthieu, et jusque dans son dernier souffle, où il dira « Père, en tes mains je remets mon esprit. Père, en tes mains je remets mon esprit. » Toute la vie de Jésus est récapitulée dans la prière ultime. Et si c'est la dernière parole de Jésus qu'il adresse à son Père, on se souvient d'une prière analogue qui est au tout début de l'évangile de Luc, quand le vieux vieillard Siméon dit « Maintenant, ô Maître souverain !» Tu peux laisser ça, non, ton serviteur. « Ô Maître souverain !» Et voyez toute la distance qu'il y a, comment l'évangile va travailler cette conception de Dieu pour passer du maître souverain, et le mot grec, je crois que c'est despota, donc il a donné despote en français, qui n'est pas très, très, très positif. Mais enfin, voilà. Donc, ô maître souverain, pour devenir père, en tes mains, je remets mon esprit. Et comment tout l'évangile va faire passer d'une vision, que certains appellent d'ailleurs jupitérienne, mais c'est d'après. Rien à voir avec l'actualité. Bon, mais d'une vision un peu jupitérienne à une vision, une relation personnelle, familiale, filiale, père. Vous voyez, toute la distance dans l'évangile sur l'appellation de Dieu, maître souverain, voilà. Père. Ainsi donc, la prière de l'homme devient signature de l'amour de Dieu et du prochain dans l'esprit du Christ. Selon la demande des disciples, apprends-nous à prier. Du coup, voilà, ça. Tout à l'heure, on disait qu'il y a peut-être une petite différence entre le mot tentation et le mot épreuve. La tentation, c'est davantage le registre de l'éthique, de la morale, de la vie ensemble, etc. Tandis que l'épreuve est davantage de l'ordre de la foi, c'est-à-dire être coupé de la source de l'amour du prochain et de Dieu, être coupé de la source. Donc, il s'agirait peut-être tout autant, à mon avis, de l'épreuve que de la tentation. Alors, en conclusion, la demande « Ne nous laisse pas entrer en tentation » laisse deviner le visage d'un Dieu qui ne peut et qui ne veut pas qui ne peut empêcher la zone grise de la tentation, le lieu où le visage de Dieu s'estompe ou semble s'estomper, où Dieu semble absent. C'est pour les humains, ni plus ni moins, la vie de tous les jours, où doit se vivre le royaume, le pardon, la volonté de Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pardonne-nous. Comme nous pardonnons. Cependant, si Jésus a parfaitement accompli cela, l'homme ne peut que demander à Dieu d'éviter la tentation en restant uni par et dans la prière du Christ. Et ceci est à vivre dans la confiance. La voix de Dieu reste audible, même au plus fort du reniement de l'homme. La voix de Dieu reste audible, même au plus fort du reniement de l'homme. Ça, c'est l'expérience de beaucoup qui sont éloignés de la voix de Dieu, mais qui n'ont pas perdu ce lien, puisque quelquefois il y a des conversions fulgurantes qui se passent. Voilà, j'avais été très marqué, moi, dans la dans la Genèse par le Lumière sur l'échafaud, par exemple, de Jacques Fesch. Voilà. Mais aussi, alors, le grand drame mis en scène par ce Martin Scorsese sur Silence. Vous avez vu ce film-là, bon, l'histoire des reniements. Voilà. Et malgré tout, malgré le silence apparent de Dieu, malgré tout, Dieu n'est pas absent, ou Dieu est toujours, restera toujours audible pour celui qui veut entendre, quoi, évidemment. Donc le lien n'est de toute manière jamais coupé. Donc la voix de Dieu reste audible, même au plus fort du reniement de l'homme. L'alliance scellée dans et par le Notre Père reste toujours d'actualité. La demande est en même temps la reconnaissance humble que la tentation fait partie de la vie, ou mieux, que la vie est une épreuve, mais qu'elle est aussi l'occasion de ressaisir par la prière l'unité de notre être partagé, partagé selon l'expression de saint Paul, « Je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je désire », en Romains 7, versets 18 à 20. Et la prière du Notre Père est l'autre manière de vivre le double commandement de l'amour. Elle ne le remplace pas, bien sûr, mais elle en est la signature spirituelle, aimante et reconnaissante envers le Dieu Père de tout amour. Elle unifie et empêche la dichotomie entre amour de Dieu et amour des frères, qui reste le socle de l'alliance, alliance tant ancienne que nouvelle en Jésus. La tentation, c'est de ne pas rester dans ce projet d'unité de la personne, de l'homme, de l'unité de l'homme et de l'unité entre l'humanité et Dieu. Pour conclure, je donne deux autres traductions de la demande qui nous occupe là, de nous. Bon, au début, donc, c'était « ne nous soumets pas à la tentation, ne nous introduis pas en tentation », et qui est maintenant « ne nous laisse pas entrer en tentation ». L'une est davantage une interprétation qu'une traduction, c'est d'un prêtre de chez nous qui avait traduit de cette manière, certains reconnaîtront peut-être. Voilà. « Dans les mauvaises occasions, ne nous laisse pas seuls ». Alors, ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation. Mais je trouve qu'elle est assez juste. Dans les mauvaises occasions, ne nous laisse pas seuls. Elle est vraie quant au sens. Et on pourrait ajouter, car sinon, nous n'aurions pas le dernier mot dans cette épreuve. Et l'autre est une vraie traduction, serrée, donnée par le père Raymond Tourné, qui est dominicain, enfin qui est décédé maintenant, qui lui-même reprenait aussi les travaux de Carmignac, bon, et qui, en s'intéressant au substrat sémitique, c'est-à-dire l'arrière-fond araméen, devinait une formulation qui pourrait être traduite comme de cette manière, « Fait que nous n'entrions pas en tentation. »« Fait que nous n'entrions pas en tentation. » Voilà. Fait que nous n'entrions pas en tentation. Et elle paraît tout à fait juste, surtout comme conclusion au parcours que nous venons de faire. Voilà, même si la tentation n'échappe pas non plus tout à fait, évidemment, à Dieu, puisque c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Mais voilà, donc il est quand même intéressant de voir cette espèce de No Man's Land du troisième épisode où le Seigneur Dieu est absent. On croit parler de lui, mais ce n'est pas de lui dont on parle. Voilà. Et donc, de cette dernière formulation, la liturgie s'inspire, ne nous laisse pas entrer en tentation. Je signale que cette traduction avait déjà été donnée par Jean Delorme dans les années 70. Et après une enquête serrée, exégétique, il avait dit que c'était, à son avis, celle qui pouvait réunir à la fois « ne nous soumet pas » et « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Les deux, quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire.
La traduction controversée du Notre Père, aspect biblique, vous venez de suivre une conférence de l'abbé Michel Garat, enregistrée le 26 janvier 2018 au Centre diocésain du Béarn, conférence organisée par le service diocésain de la formation permanente du Béarn dans le cadre du cycle « Les plus de la formation permanente ».